J'ai demandé leurs meilleurs conseils à 7 designers différents pour un épisode unique et riche d'enseignements. Retrouvez les conseils de l'agence Meaningful tout de suite dans Parlons Design. Parlons Design est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour un épisode vraiment spécifique, vraiment unique. C'est le premier format qu'on fait comme ça sur le podcast après plus de 180 épisodes, donc c'est vraiment de la nouveauté. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, moi je suis en stage en termes de digital product design chez Meaningful, qui est un studio de design stratégique basé à Paris. J'étais déjà venu l'année dernière pour un premier stage de 3 mois et puis je suis revenu cette année pour un stage de 6 mois. Et à l'agence Meaningful, il y a un petit rituel qui se fait de manière régulière, à peu près tous les mois. Ils organisent des pauses café, soit avec des invités extérieurs, soit avec des invités directement venant de l'agence, pour parler un petit peu plus de nous, un petit peu plus de notre expérience. Alors là, au début du mois de septembre, c'était à mon tour de faire ma pause café. Je leur ai parlé de plusieurs projets que je mène, et bien évidemment, notamment beaucoup du podcast Parlons Design. Et enfin, je leur ai prévu un petit atelier création de podcast. Tout simplement, je leur ai demandé à chacun leur meilleur conseil en termes de design, pour s'améliorer en design, pour devenir un meilleur designer. Et ils ont chacun préparé leur petit conseil, on les a enregistrés directement dans l'agence, et aujourd'hui, vous allez avoir accès à cette compilation de leurs meilleurs conseils de design. Donc, je vais pas tarder plus longtemps avec cette introduction, je vous laisse avec eux les découvrir et découvrir leurs conseils. Et bonne écoute à tous!
Bonjour, je m'appelle Lorraine, j'ai 25 ans, je suis designer en freelance depuis un an. J'ai été diplômée l'année dernière de l'ENSI Les Ateliers à Paris. Et mon conseil pour être un bon designer aujourd'hui, ça serait de suivre ses intuitions. Et quand on a une idée qu'on sent qu'elle est bonne, de la mener au bout, quitte à s'écarter des recettes traditionnelles du design, parce que le design n'est pas histoire de recettes et qu'il faut faire attention à ne pas se laisser enfermer dans des méthodes préconçues. Et donc, la prochaine fois dans vos projets, essayez de remettre en question la manière dont vous méthodologisez votre travail.
Bonjour à tous, je suis Nicolas Witt-le-Duc, je suis designer depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé beaucoup dans le web. Mon parcours vient plutôt de l'information, du design de l'information, de la théorie de l'information. Et je suis autodidacte. J'ai commencé à travailler dans le web, ou je suis né avec le web, en tout cas professionnellement. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce qui m'est arrivé dans mes toutes premières années de designer. Je travaillais chez Reporters sans frontières, qui m'a donné la chance d'être designer, et à côté je faisais des petites missions, et un copain me demande de faire son logo. Et je découvre les outils, je découvre Illustrator, je découvre le graphisme, et donc je me lance dans le design de ce logo. Je suis très fier de moi, évidemment. Je l'envoie à mon client, donc plusieurs jours après, je lève le nez de mon clavier, et en fait je vois que le logo que j'ai créé, c'est le logo d'une boîte dont j'ai le sticker sur mon écran, dont j'ai l'autocollant sur mon écran. En fait, j'avais décoré mon écran avec plein d'autocollants que je récupérais. Mon bureau était derrière moi, il y avait plein d'affiches, de graphismes, et ainsi de suite. Et là, j'ai compris vraiment quelque chose une règle de base, qui est en fait inconsciemment, c'est notamment vrai pour les logos, on a tendance à reproduire ce qui est sous nos yeux, et c'est complètement inconscient. Et ça, c'est vrai chez les jeunes designers, ça nous arrive même aujourd'hui avec des designers seniors, hein, à qui ça arrive. Donc voilà, mon conseil, c'est: ne mettez pas de stickers sur vos écrans, ne mettez même pas de choses derrière vos écrans, sur vos murs. Essayez d'avoir un espace de travail le plus clean possible.
Bonjour, moi c'est Jennifer, je suis designer chez Meaningful depuis maintenant 4 ans, et j'ai plutôt une formation de design produit, mais je me suis formée au design numérique chez Meaningful. Aujourd'hui, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas avoir peur de se tromper, C'est très simple. Quand on est designer, souvent, on est un peu perfectionniste et on aimerait toujours tomber pile dans le mille du premier coup. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait. Ou en tout cas, très rare. Donc, ne pas avoir peur de se tromper, c'est d'abord être capable, pour soi-même, dans son processus créatif, d'oser, dans un premier temps, d'être force de proposition, de ne pas avoir peur, parfois, de bousculer aussi, avec des propositions qui peuvent être un peu hors des sentiers battus. Mais c'est aussi d'être prêt à entendre la critique. Donc, il y a une phase de création, souvent, puis on va souvent voir le client, et c'est le moment où on va avoir des retours sur notre design. Et j'ai quelques conseils autour de ça, c'est de vraiment apprendre à se mettre dans une posture d'accueil et d'écoute. C'est pas toujours facile quand c'est son design, qu'on le montre à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment très important de mettre son ego de côté et d'être prêt à se tromper, prêt à entendre la critique, à l'accepter pour pouvoir mieux l'intégrer dans votre design par la suite. On pense souvent que le design, c'est créer, mais en fait, c'est beaucoup corriger. Itérer. Et faut intégrer ça comme une composante globale, en fait, de notre métier. Et pour finir, ça c'est un petit fun fact ou un petit tips, c'est de ne pas hésiter à tout recommencer. Ou en tout cas, à tout casser pour mieux recommencer. C'est pas jeter par la fenêtre, c'est juste voilà, être capable de prendre le recul, de mettre peut-être tout à la poubelle, repartir d'une page blanche, mais en connaissance de cause. Et ça, c'est très utile.
Bonjour, et ben moi, c'est Galilée Al-Rifai. Je suis designer industriel de formation. Et au studio Meaningful, je suis digital product designer et directrice artistique. Si j'avais un conseil à donner à de jeunes designers, ce serait avant tout, en fait, de poursuivre et cultiver une pratique artistique et créative qui développe votre sens du regard et du toucher. Donc, par exemple, le dessin, la musique, le collage, la peinture, la photo. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, l'important, c'est de nourrir ses projets, ses créations, plutôt dans le monde du numérique, par une expérience du geste et du regard en interaction avec le monde physique et les émotions qu'il procure. L'objectif, en fait, c'est vraiment de nourrir, et vice-versa d'ailleurs, la création numérique avec une expérience, une pratique venant plutôt du monde physique. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire, de pratiquer, de rater, de revoir, de reprendre, pour pouvoir en fait proposer des idées plutôt nouvelles, justement, plutôt que de faire voilà des veilles mimétiques de voilà de ce qu'on peut voir, ce qui est très bien, mais voilà, cultiver sa propre, si je résume, cultiver sa propre pratique créative, ça permet voilà de développer une écriture créative propre et de nourrir vos projets.
Bonjour, je m'appelle Joséphine Nua, donc j'ai fait un master en design produit à Stratécole de design et j'ai intégré donc l'équipe Meaningful pour mon stage de fin d'études. Donc il n'y a pas très longtemps. Et le conseil que j'aimerais donner, c'est sur le processus créatif et sa temporalité. Donc je remets un peu dans le contexte. Je dirais qu'une partie non négligeable du design réside en fait finalement dans la recherche, le questionnement, trouver l'inspiration. Et donc de façon imagée, on peut imaginer un iceberg où le produit qui sort est seulement la partie émergente et en dessous il y a tout un processus. Qu'il ne faut pas forcer quand on se retrouve bloqué, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé de bloquer, et souvent, en fait, finalement, je retrouve l'inspiration, des idées dans le métro ou quand je marche, tout simplement, même parfois juste avant de m'endormir. Donc c'est, en fait, finalement, un truc qui ne se contrôle pas vraiment, donc essayer de trouver des moments à soi, ça peut aider. Bref, du coup, ne pas essayer de tout contrôler, et si c'est bloqué, ça va se débloquer tout seul.
Alors moi, c'est Camille, je suis office manager chez Meaningful, et mon conseil est plutôt issu de mes autres activités pro, et notamment de l'accompagnement pédagogique que je fait à l'ENSI les ateliers, c'est une école de design. Donc mon conseil, ça serait de s'intéresser à d'autres disciplines afin de trouver ses pairs dans le design, mais aussi dans l'art, le cinéma et le théâtre. Tout ça, ça permet d'être en mesure toujours d'innover en voyant de nouvelles choses. Donc pour conclure, si jamais vous êtes en panne d'inspi, foncez voir des expos.
Bonjour à tous, je suis Marine Ruit-le-Duc et je suis la fondatrice du studio de design Meaningful. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, dans tous les métiers d'ailleurs, pas seulement le design, qui est la notion de feedback. Comment donner et recevoir des feedbacks ? On va aborder ce sujet de deux points de vue, celui qui veut recevoir des feedbacks et celui qui doit en donner. Pour information, donc c'est un exercice, le feedback tango, que j'ai découvert à travers l'agence IDEO, que vous connaissez certainement, qui est une de ces agences de design qui a démocratisé le design thinking dans le monde. Alors, on va commencer assez rapidement pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un feedback. Un feedback, c'est... On l'a tous vécu, que ce soit quand on est en classe, on va voir un professeur et on lui demande un retour sur un travail qu'on a réalisé, on le vit depuis qu'on est petit. Alors souvent ça passe par la notation, mais dans le monde professionnel et particulièrement dans le design, les feedbacks, on en demande en permanence, que ce soit à des utilisateurs des solutions qu'on design ou que ce soit à nos pairs ou à nos managers sur qui on s'appuie pour faire évoluer nos concepts, nos idées. Ou même à nos clients, évidemment, qu'on sollicite en permanence pour obtenir des feedbacks sur nos projets. Donc je vais d'abord commencer par celui qui veut recevoir des feedbacks. La première étape, c'est, quand on veut recevoir un feedback, c'est de solliciter son interlocuteur, et pour ça, de créer un cadre propice pour que l'interlocuteur comprenne le contexte, la situation dans laquelle on lui demande un feedback. Donc, il faut évidemment commencer par exposer de quoi relève le travail que vous lui présentez, mais surtout... expliquer ce que vous attendez comme type de feedback. Peut-être que vous attendez simplement un feedback sur la forme de votre présentation, pas forcément sur le fond. Peut-être qu'au contraire, la forme n'est pas aboutie à ce stade, mais vous attendez plutôt un feedback sur la structuration, le plan de votre présentation, ou sur, si on parle d'une application mobile, sur l'architecture de l'information, le design de l'application. Donc, évidemment, un feedback, il faut toujours donner du contexte, parce que si vous laissez ouvert, la personne, elle va forcément s'engouffrer dans toutes les brèches possibles, et peut-être des fois, ça va prendre plus de temps que prévu, vous allez avoir des retours sur des sujets que vous ne vouliez pas forcément remettre en question. Et c'est souvent le problème qu'ont les débutants, quand ils présentent un projet à un client ou à un interlocuteur, ils vont laisser ça totalement ouvert, ils ne vont pas du tout cadrer la réception du feedback. Et c'est ce qui va leur donner parfois le problème de faire beaucoup d'itérations, beaucoup de retours. Une fois qu'on a posé le cadre, expliqué ce qu'on recherche comme feedback, vous pouvez évidemment laisser la personne un petit peu, enfin, présenter votre projet, la laisser un peu s'exprimer, mais n'hésitez pas à cadrer aussi avec des questions spécifiques. Ça peut être des questions très simples sur déjà qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui te surprend dans ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui retient particulièrement ton attention. Essayez de collecter des feedbacks positifs et pas seulement négatifs sur ce que vous présentez pour pouvoir savoir sur quoi capitaliser pour la suite. Qu'est-ce qui te semble le plus permettre d'atteindre mes objectifs, voilà, si c'est une présentation, vous cherchez de l'impact, mais qu'est-ce qui toi dans cette présentation donne plus d'impact à ma présentation. Et puis évidemment, tout simplement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et puis qu'est-ce qui manque selon toi pour atteindre l'objectif que je t'ai expliqué précédemment. Donc c'est très simple, mais c'est des choses évidentes qu'il faut penser à structurer pour avoir le meilleur feedback possible. La troisième étape de la collecte de feedback, quand on veut en recevoir, c'est évidemment de les entendre, donc de prendre du recul, et surtout d'identifier parmi ces feedbacks ceux qui vous sont les plus utiles et les plus pertinents. C'est pas parce que quelqu'un, même un manager, vous fait un feedback que tout est à prendre au pied de la lettre, ou un professeur. Vous avez aussi le choix de faire le tri, vous pouvez avoir demandé des feedbacks à plusieurs clients, plusieurs personnes, et parmi ces feedbacks, identifier ceux qui sont les plus récurrents et ceux qui, selon vous, doivent être pris en compte de manière prioritaire. Donc il y a vraiment une phase aussi de prise de recul sur ces feedbacks pour prioriser, et puis pour ensuite, en fonction du temps que vous avez pour les intégrer, faire le tri et hiérarchiser ses retours. Je vais avancer et parler de la posture de celui qui doit donner des feedbacks, parce qu'on est tous aussi dans cette position avec des collègues, avec des étudiants. Alors là, je parle peut-être en tant que manager, de donner des feedbacks, et c'est la posture la plus difficile. Donner des feedbacks, c'est évidemment, si la personne n'a pas pris le temps de vous donner de contexte, commencez par prendre ce temps-là, reposez-lui la question. Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre? Essayez de comprendre aussi quels sont ses délais. Voilà, quelles sont les conditions dans lesquelles il collecte ses feedbacks, et collecter un maximum d'informations sur les objectifs et les finalités de ce qu'il vous présente. C'est pas du tout la même chose de collecter des feedbacks d'usabilité sur une application que d'être en début de projet et finalement d'avoir besoin de feedback sur la proposition de valeur, sur le pourquoi de ce produit. Donc essayez de bien comprendre où se situe la recherche de feedback de votre interlocuteur pour pouvoir ajuster vos feedbacks. La deuxième étape, évidemment, c'est d'adapter vos feedbacks. Donc, mettez-vous à la place de votre interlocuteur. Quand on est un enseignant, évidemment, on ne fait pas faire le même feedback à un étudiant en première année qu'à un étudiant en master. Quand on est manager, on doit avoir conscience des délais dont dispose la personne pour opérer ses feedbacks, et les feedbacks doivent être construits aussi en ayant en tête une timeline, des choses qui peuvent s'opérer dans le temps dont dispose la personne pour réaliser ses feedbacks. Donc, pensez au délai, enfin, mettez-vous vraiment à la place de votre interlocuteur en pensant au délai dont il dispose, et essayez d'être le plus concret possible dans les retours que vous lui proposez. Si vous pouvez lui apporter évidemment des solutions, c'est parfois bien. C'est pas forcément indispensable, le feedback ne nécessite pas de solutionner à la place de la personne. Mais en tout cas, vous pouvez essayer d'être spécifique, donc donner des exemples concrets. Si vous lui exposez quelque chose qui ne va pas, essayez plutôt de lui proposer un exemple de à quoi ça ressemblerait si ça allait, voilà. Et qu'est-ce qui peut être amélioré concrètement? Si vous aimez pas la couleur de quelque chose, bah essayez de donner une orientation en disant il faudrait être plus précis, voilà, c'est plutôt des couleurs chaudes, des couleurs froides, ou une typo plus spécifique que celle-ci. Donc voilà, vous avez une responsabilité dans le retour que vous faites à la personne qui vient vous solliciter. Voilà, donc je sais pas si ces conseils vous seront utiles, mais c'est peut-être quelque chose qui paraît naturel, qu'on fait au quotidien, mais donner comme recevoir des feedbacks, ça s'apprend et ça se structure. Et c'est une pratique que vous allez acquérir au fil du temps. Mais déjà, d'en avoir conscience et de prendre conscience que quand vous sollicitez quelqu'un pour un point ou un retour, ça se structure, que vous pouvez en tirer évidemment le meilleur en ayant un petit peu anticipé cette prise de feedback, vous allez voir, ça va nourrir votre travail et ça va surtout faciliter parfois votre relation avec votre manager, avec vos enseignants, ou dans l'autre sens, quand vous êtes manager ou enseignant, avec vos collaborateurs ou avec vos étudiants, parce que ça va permettre de faciliter la communication, de faciliter le travail, et les personnes vous seront reconnaissantes aussi de cette structuration qui leur permettra d'avancer plus efficacement.
J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ces conseils surtout vous auront inspiré. Si d'autres épisodes dans le genre avec des invités peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment, vous pouvez découvrir un petit peu ce que fait l'agence Meaningful et peut-être participer à de futurs post-cafés en allant les suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je mettrai les liens dans la description. Et si vous avez aimé ce podcast, bien évidemment, pensez à vous abonner à Parlons Design, pensez à le partager également. Également sur les réseaux sociaux, tant qu'on y est, à le partager à vos amis directement en message privé. Ça permet de faire grandir le podcast, ça permet de faire grandir la communauté. Donc forcément, c'est toujours chouette. Puis j'aime bien avoir vos retours, voir que la communauté est engagée autour de Parlons Design. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons Design.